Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.
Chers auditeurs, nous avons souvent parcouru ensemble les plantations, assisté aux événements visibles de la vie des captifs dans les États esclavagistes de l'Amérique du XVIIe au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, puisque le temps liturgique de l'Ascension nous invite à cultiver notre foi, à l'exemple des apôtres, au-delà de la présence visible du Christ, nous plongeons dans la vie intérieure, invisible, de ceux qui ont créé des chants inspirés. Cette musique qui a traversé les siècles et les mers jusqu'à nous, j'ai nommé les Negro Spirituals. Alors, en introduction à notre 54e épisode, je laisse la parole à Robert Smalls, ancien esclave, interrogé dans les années 1930 lors d'une enquête fédérale sur l'esclavage. L'enquêtrice lui demande « Est-ce que les maîtres savaient quoi que ce soit de la vie secrète du peuple noir ?» Robert Smalls répond
« Non, madame. Les noirs montrent à leur maître une vie, et l'autre vie, ils ne la montrent pas. »
Ce sont les Deep River Boys qui nous lancent une invitation très convaincante. Invitation à rejoindre le prochain camp meeting. There's a meeting here tonight. Venez. J'ai touché son vêtement, je dis les textes de Matthieu et de l'Apocalypse. Il y a réunion de prière ce soir, venez. Oui, c'est bien Matthieu qui rapporte la parole de Jésus. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Au chapitre 18. Quant à la phrase apparemment incohérente, j'ai touché son vêtement, elle évoque toujours l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 9. Et le geste de la femme hémorroïs qui, après avoir touché le vêtement de Jésus, s'entend dire au verset suivant « Ta foi t'a sauvé ». Il fallait donc connaître le verset suivant. Le message est là, parfois caché sous des paroles qui sont décousues par nécessité pour se préserver des punitions. Une vie spirituelle nécessairement intérieure. Intérieure mais collective. Pourtant, se rassembler était interdit, même pour prier. Alors, les esclaves de différentes plantations prenaient le risque de se rassembler, après des journées de labeur, la nuit, dans la nature sauvage. Là, on retrouvait ceux avec qui on avait peiné tout le jour pour prier la nuit, chanter en communauté. Là, la force intérieure de chacun se démultipliait, vivifiée par l'Esprit Saint. Elle se propageait sur toute l'assemblée. Là, dans cette veillée de prière clandestine, le camp meeting, là, se créaient collectivement les Negro Spirituals. Une ethnomusicologue, Nathalie Curtis-Berlin, témoigne. Toute l'assemblée était en prière et, au milieu du bourdonnement de plus en plus intense des suppliques, se produisit soudain comme une vibration électrique. Une plainte s'éleva en rythme musical. D'un autre coin de l'assemblée,
une voix improvisa une réponse, et puis d'autres voix entrèrent dans la cadence. Un chant se forgea progressivement,
qui n'était l'œuvre de personne en particulier, qui était l'œuvre de toute la communauté en prière.
You got a right.
Dans la ferveur de ces assemblées clandestines se concrétisent de nombreux psaumes, et aussi ce que saint Paul recommandait déjà aux Colossiens et aux Éphésiens.
Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur.
Des chants inspirés, c'est peut-être de ces versets que vient le terme « spiritual song », qui deviendra « negro spiritual » sous le ciel du sud profond. Comment se déroulent les camp meetings ?
My friends, we're all going to get together.
D'abord, on s'agenouille en cercle autour de celui qui dirige la prière. Puis la présence de Dieu se fait sensible, comme nous le confie Simon Brown.
Les gens chantaient, priaient, témoignaient et tapaient des mains comme si Dieu était là, au milieu d'eux. Dieu n'était pas au loin, dans le ciel. Il voyait chacun, écoutait chaque mot et promettait de laisser descendre son amour. Mon peuple était si accablé par ses tribulations, le cœur si brisé, que j'en ai vu plus d'un éclater en sanglots et pleurer comme un bébé. Oui, monsieur, il n'y avait pas d'hypocrisie dans ces réunions de prière. Il y avait une foi vivante en ce juste Dieu qui, un jour, exaucerait les cris de ces pauvres enfants noirs et les délivrerait de leurs ennemis. Mais ils n'ont jamais dit un mot aux blancs de cette sorte de foi. Vous écoutez Negro Spiritual du Cri au Chant, présenté par Marika Wadek.
Pendant ces réunions clandestines, les camp meetings, ils sont libres de créer leurs propres hymnes. Les mélodies apprises aux offices, les souvenirs de chants et rythmes africains se mêlent, se métissent pour souligner les versets qui avaient touché les fervents croyants. Nous avons écouté « Religion So Sweet » interprété par les Macintosh Shouters et le chant dit « Douce est la religion ». Le réconfort se trouve dans la foi. Elle est bénéfique pour tout. Elle me donne la patience, elle me donne la joie. Ô compagnon, viens toi aussi. Parmi les très nombreux versets qui ont pu inspirer ce chant, on pourra retenir, toujours en soulignant l'invisible, la lettre aux Hébreux au chapitre 11.
La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas.
Ainsi que l'intériorité de la joie parfaite, en Jean chapitre 15.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Pas d'illusion sur le monde, mais la vraie victoire est assurée. Jean, toujours, mais au chapitre 16.
Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde.
De quelle victoire s'agit-il ? Écoutons le groupe Berea nous exhorter à la marche victorieuse.
Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait.
Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Car vous savez bien que, pour eux, comme pour vous, le maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon.
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix.
Et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais.
Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Nous avons donné lecture de la référence biblique principale qui est la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Avant la traduction, pour souligner la parole grâce à l'élan de cette marche triomphale, March on dit « En avant, vous aurez la victoire, vous connaîtrez le jour, c'est-à-dire le jour du jugement. » Et les couplets rappellent la sortie des esclaves d'Égypte, le discours de Pierre rempli d'Esprit Saint à la Pentecôte, ce qui nous rejoint puisque nous sommes aussi en chemin vers la Pentecôte. Le jour du jugement ne fait pas peur aux esclaves, puisqu'ils ont entendu Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens que nous venons de lire. Chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué selon le bien qu'il aura fait. Donc, pas d'inquiétude pour le juste. Est-ce que ce serait un de ces versets qui aurait inspiré à certains colons du XVIIIe siècle d'ouvrir la porte de leurs églises à leurs esclaves ? Écoutons Charles Wesley, un célèbre compositeur de l'église méthodiste anglaise, en visite en Amérique au XVIIIe siècle. Il nous rapporte cette anecdote.
Ce jour, l'assemblée était si nombreuse que les esclaves durent sortir de l'église et écouter le prédicateur de l'extérieur de l'église. Après le sermon, ceux qui ressentaient un fort désir de conversion furent invités à s'approcher de l'autel. Une vieille dame noire, nommée Marie, était si bouleversée qu'elle entra et demanda à devenir membre de cette église. Elle se heurta à un refus, et comme elle insistait, on lui dit de s'adresser à une église noire du voisinage. En larmes, elle sortit en marmonnant. « Je vais raconter à Dieu comment vous me traitez. » Ses amis restés dehors commencèrent à chanter. Marie cesse de pleurer. L'armée de Pharaon a été engloutie.
Singing if I could, 'cause you really would, surely would.
Mary, Don't You Weep, interprété par 5 policiers de Huntsville. Et malgré un enregistrement amateur, leur version m'a paru vraiment juste. Ce chant dit « Ne pleure pas, Marie. L'armée de Pharaon a été noyée. » Remarquez que l'épisode de la sortie victorieuse d'Égypte revient. Comme dans March On, la suite dit « Un de ces matins, avec mes ailes, j'irai au ciel dire comment on nous a traités. » Mais personne ne m'empêchera de proclamer la bonne nouvelle. L'armée de Pharaon a été noyée. Ne pleure pas, Marie. En référence, on retrouve l'Exode au chapitre 15 où Myriam, sœur de Moïse, devant l'armée de Pharaon engloutie dans la mer, exhorte à chanter la gloire de Dieu. Il faut savoir que Myriam est la forme hébraïque et originelle du prénom chrétien, Marie. Vous aurez compris l'analogie entre l'armée de Pharaon et les propriétaires d'esclaves de ce nouveau monde, pas si nouveau d'ailleurs dans son fonctionnement. C'est pourquoi, dans notre anecdote, les amis de Marie l'encouragent à sécher ses pleurs. Grâce à Jésus, le mal a été vaincu. Il s'agit maintenant de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection promise à tous. Est-ce que tous proclament la bonne nouvelle à tous ? Nous aussi, pour la solennité de l'Ascension, nous avons tous entendu la dernière parole prononcée par Jésus avant de vivre son ascension vers le Père, en Matthieu, au chapitre 28.
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous écoutez Negro Spiritual, du cri au chant présenté par Marika Wadek.
Et oui, Emmanuel, nous avons écouté un magnifique chant dont je donnerai les références sur Waller et sur le site de Radio Présence. Pour les nouveaux convertis, il s'agit vraiment de proclamer la bonne nouvelle à tous. Proclamer sa foi au grand jour, ne plus se cacher, faire communauté, c'est naturellement ce à quoi aspire tout croyant. Les esclaves n'ont pas fait exception. Beaucoup d'esclaves assistaient aux offices donnés dans les églises de leurs maîtres. Mais comment cela se passait-il exactement ? Bruno Chenu nous l'explique.
En 1857, le Code du Mississippi parle de liberté de culte, à condition que tout service religieux où se trouvent des Noirs soit supervisé par au moins 2 Blancs, discrets et respectables. Bien sûr, l'aménagement des lieux était parlant aussi, que ce soit sur la plantation, dans de simples maisons de prière en bois ou dans les églises de bourgade. Les Blancs s'asseyaient devant, les Noirs à l'arrière, ou sur une tribune aménagée pour eux. Une église de Virginie alla jusqu'à peindre quelques bancs en noir pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Pourtant, Cette ségrégation n'était pas nécessairement ressentie comme scandaleuse par les esclaves, car elle leur permet d'être en contact avec les frères et sœurs d'autres plantations, de faire circuler les informations, de découvrir celui ou celle qui deviendrait peut-être l'époux ou l'épouse, et de vivre une communauté qui dépassait les limites de la plantation.
Plus important encore, blancs et noirs entendent la même Bible, chantent les mêmes chants, vivent la même démarche de repentance et d'engagement. C'est en ce lieu que s'effectue la révélation d'un Dieu qui a créé tous les hommes égaux et qui a offert son Fils pour le salut de tous. Certes, les esclaves ont droit à une exhortation spéciale à la fin du service. Là, on insiste sur le devoir d'obéissance au maître. Mais ils ont entendu et intériorisé tout le reste. Ils peuvent donc relativiser le message de devoir d'obéissance. À travers l'Église biraciale, méthodiste ou baptiste, les deux confessions dominantes, l'esclave va découvrir ne serait-ce qu'un zeste d'égalité. Au sens de la communauté paroissiale, tout le monde se voit gratifié du titre de frère et de sœur, ce qui constitue une belle transgression de la hiérarchie sociale.
Et ce sentiment d'égalité est d'abord offert par Dieu. L'esclave apprend que lui-même est enfant du Père, autant que le Maître. Il comprend surtout que le statut spirituel a une toute autre valeur que le statut temporel. Tout esclave peut s'identifier à Jésus, serviteur souffrant. L'histoire de son peuple ne ressemble-t-elle pas étrangement à celle d'Israël ? Alors j'ajouterai, chers auditeurs, que l'histoire des apôtres que la liturgie du moment nous offre rapporte des récits de flagellation et de bastonnade, notamment à l'encontre de Paul et Silas. Et tout cela projette des images très proches du quotidien des plantations. Maintenant, partageons une illustration du livre de la Genèse au chapitre 50 qui dit « Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. » Au début des années 1790, à Philadelphie, Richard Allen et Absalom Jones, deux paroissiens fidèles et actifs qui ont amené beaucoup de Noirs à l'église épiscopale méthodiste de Saint-Georges à Philadelphie, entrent dans leur église comme tous les dimanches pour retrouver leurs frères et sœurs, blancs et noirs.
Nous avons pris les sièges situés au-dessous de ceux que nous occupions auparavant dans la tribune. Au même moment, le doyen dit « Prions !» À peine nous étions-nous agenouillés que j'entends un brouhaha considérable. Je lève la tête et je découvre qu'un marguillier, un bedeau, tirait Absalom pour le faire lever en s'écriant
« Levez-vous, vous n'avez pas le droit de vous agenouiller ici. »
Absalom répond « Attendez la fin de la prière !» Le bedeau réplique
« Non, vous vous levez tout de suite ou j'appelle à l'aide pour vous obliger à partir. »
Absalom répond « Attendez la fin de la prière, je me lèverai et je ne vous dérangerai plus. » Alors le marguillier fit signe à un de ses collègues de le faire lever de force. Mais la prière était arrivée à sa fin. Alors nous quittâmes ce temple, tous ensemble, pour ne jamais revenir.
Quel est l'effet bénéfique de ce rejet brutal ? La création de l'African Methodist Episcopal Church. Les deux protagonistes, Jones et Allen, seront ordonnés diacres, puis pasteurs. Ils ont été les deux premiers Noirs américains à recevoir une ordination officielle. L'Esprit-Saint avait peut-être soufflé sur le conseil paroissial de Saint-Georges quand il avait décidé, sans avertir les principaux intéressés, de ne plus tolérer la présence des Noirs ailleurs que dans la tribune. Aujourd'hui, ces grands décideurs sont morts, mais l'AME Church est toujours bien vivante. Tous en chemin vers la Pentecôte, nous pouvons répondre à l'invitation des Ingram Gospel Singers en chantant ensemble au fond de mon âme. Chante l'Esprit Saint. Down in my soul cries holy. En écho à Matthieu chapitre 6.
Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de mythe ni de vers qui dévore, pas de voleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Chers auditeurs, vous trouverez les traductions et références manquantes sur la page de votre émission Negro Spiritual du Cri au Chant sur le site de Radio Présence, ainsi que sur Waller, paroisse Saint-Étienne. Lecture et technique soignée, vous avez reconnu Imanol. Merci beaucoup Imanol.
Avec plaisir. L'émission est bien sûr retrouvée sur le www.radioprésence.com et vous écrivez juste Negro Spiritual.
Parfait, et oui. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une très bonne semaine. Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.